2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Le temps des copains.
Belle, belle, belle comme le jour.
L'émission des années 60. Sur RVE. RVE. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. L'équivalent d'une année de précipitations tombée en l'espace de quelques heures hier, l'épisode Cévenol qui a frappé le Gard a été d'une rare violence. De nombreux cours d'eau ont débordé, des centaines de pompiers étaient mobilisés et une personne au moins est toujours portée disparue. Ce matin, Météo France annonce la fin de l'alerte rouge en local. Gérald Darmanin et Barbara Pompili, les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique, se rendent sur place. 75 députés de la majorité signent une tribune à paraître ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Ils appellent à une vaccination massive contre la grippe saisonnière. Un acte qu'ils qualifient de citoyen et qui devrait permettre de lutter, selon eux, contre le retard de diagnostic et les complications chez les plus fragiles dans un contexte de cohabitation avec le coronavirus. À l'échelle nationale, rappelons ce chiffre, 13 500 nouvelles contaminations enregistrées hier en l'espace de 24 heures en France. Au Royaume-Uni, le ton se durcit face à l'obligation d'auto-confinement. Les personnes contaminées qui ne respecteraient pas cette obligation se verront infliger une amende de 10 000 livres sterling, soit 11 000 euros. Une annonce qui intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que son pays faisait face à une seconde vague. En sport, en cyclisme, l'arrivée du Tour de France prévue cet après-midi sur les Champs-Élysées, une étape très suivie. Après l'incroyable rebondissement d'hier, le jeune Slovène Pogačar a arraché le maillot jaune, pourtant solidement ancré sur les épaules de son compatriote Primož Roglič, qui tenait le jaune depuis au moins une quinzaine de jours. Aux 24 heures du Mans, Toyota et Rébellion se disputent toujours la première place. L'arrivée est prévue cet après-midi à 14h30. Enfin, en tennis, la surprise, Rafael Nadal éliminé en quart de finale des Masters 1000 à Rome hier. L'Espagnol, pourtant grand favori, s'est fait sortir par l'Argentin Diego Schwartzmann.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Et dans ce flash info local, eh bien, on parle à nouveau des journées du patrimoine qui se déroulent encore aujourd'hui. Notons qu'en Eure-et-Loir, à l'occasion de ces mêmes journées, la maison civile et militaire Joachim Murat organise une grande reconstitution historique de l'époque napoléonienne au château de Montigny-le-Ganelon. Et maintenant, on revient dans les Yvelines, on va du côté de Rambouillet. Vous pouvez encore aujourd'hui visiter le conservatoire communautaire Gabriel Fauré à 10h, 14h et 15h30 avec une inscription réservation auprès de l'office de tourisme de Rambouillet. Et puis, noté aujourd'hui à Rambouillet, qui est un vide-grenier qui est organisé comme chaque année, de 9h à 18h. On change tout à fait de registre et on parle de déchetterie du site Reva qui vous informe qu'elle a décidé d'arrêter la prise de rendez-vous en déchetterie depuis le 12 septembre dernier. Désormais, les usagers peuvent se rendre en déchetterie librement, toujours au jour et horaire habituel d'ouverture. Seule la déchetterie de Saulnières reste fermée. On va du côté de Thoiry. Notez que le château est ouvert gratuitement ce dimanche. Il s'agit d'une gratuité qui n'est pas valable pour l'entrée du parc zoologique. Avec conférence de Paul de la Panouse à 10h et 14h30, vous découvrirez ainsi l'histoire extraordinaire d'un homme qui partagera avec vous ses multiples vies, châtelain, éleveur de la faune sauvage, historien, agriculteur et metteur en scène de la faune et de la flore. Réservation 06 95 31 36 76, 06 95 31 36 76, aujourd'hui dimanche. Ouverture du château de Thoiry, non pas du parc zoologique, avec des conférences de Paul de la Panouse. Merci d'avoir suivi ce flash. Bon dimanche à toutes et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Eh bien, effectivement, bonjour à tous et à tous. Nous revoilà, ravis de vous retrouver après ces 3 mois de congé radiophonique. Hein. On est reparti en principe pour une nouvelle saison jusqu'à la mi-juillet. Et comme on l'avait promis ce matin, en ce dernier week-end de l'été, qui coïncide avec les journées du patrimoine, eh bien, on va parler de 2 grands événements sportifs qui appartiennent au patrimoine du sport français. On commence avec celui qui avait été notre dernier invité en ligne avant nos émissions à distance. On a gagné le pari de se retrouver. Salut Olivier.
Bonjour Philippe.
Ouais. Bonjour
à tous.
Tout va bien.
Tout va bien. de faire, de vivre comme on peut, il n'y a pas de souci. On fait aller, mais voilà, on a l'espoir. Différentes organisations qu'on a vu, les élus sont contents que ça reparte.
Bon, attendez, je crois qu'il y a un petit problème de micro, voilà. Alors je vais présenter le deuxième invité, notre ami Stéphane Kahn. Salut Stéphane, ça va?
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs, oui. Bonjour,
oui.
RVE.
Oui, c'est ton petit nuage, hein, Stéphane, oh. Depuis la victoire de Pierre Gasly.
Ah, 24 ans qu'on attendait, donc ouais. Cocorico, non, super content, et puis là, bon, on est en pleine 24 heures du Mans, ça se passe bien, c'est une belle course, il fait beau, et voilà, c'est tout pareil, content que tout ça reparte. On a eu le droit aussi à des rallyes qui sont repartis, donc voilà, ça fait du bien de revivre tout ça.
Absolument. Ouais. Alors je redis bonjour à mon ami Olivier. Bon, rebonjour Olivier, ravi de te retrouver. Hein. On s'était quitté le 15 mars, vous étiez dernier invité dans nos studios. Donc ravi de vous retrouver.
Ravi de vous revoir. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui. Et une bonne rentrée, j'irai. Et puis heureux de revoir cette rentrée, rebouger, redynamiser, de revivre. Voilà, tout court.
Voilà. Bah tiens, je voulais vous remercier tous les sportifs, parce que bah oui, nous aussi a été à distance et en période confinement pendant quelques mois. Alors avec des concepts plus ou moins courts, mais en tout cas le monde du sport a su à travers donc nos rendez-vous et bien montrer qu'il avait été généreux, solidaire, créatif et imaginatif, et qu'il avait un regard très pointu sur la situation sanitaire, économique et psychologique et sociale que l'on rencontre. Donc merci à vous, hein. Parce qu'on s'est intéressé de plus près, dans ces conditions un peu particulières, à comment vivaient les sportifs ce confinement, et à travers ces émissions à distance, et le sport a montré qu'il était présent, et on peut vous en féliciter. Alors justement, on a un week-end de sport fou, je l'ai dit, hein, ce dernier dimanche de l'été. On reviendra, Olivier, sur un autre événement aussi qui a ouvert, j'allais dire, pratiquement la saison dans notre région, à savoir l'épreuve féminine de cyclisme sur route, qui a eu lieu il y a 15 jours. C'était la troisième manche de la Coupe de France féminine. C'était une sudiveline féminine, ni plus ni moins.
Tout à fait, une course réservée au cyclisme féminin de haut niveau, hein, puisque c'était national.
Oui. Quel niveau ?
National, et puis on a même eu des professionnels, puisque celle qui gagne est professionnelle, hein, était championne de France espoir il y a 2 ans, vice-championne de France cette année. Donc un plateau assez relevé, puisqu'on avait aussi Marion Cornet-Riblon, qui est championne de France et championne du monde de cyclocross. Donc voilà, on avait un beau plateau, 135 filles engagées, 132 au départ, donc puis ça s'est très très bien passé. Tout le monde était content, aussi bien les compétitrices, les élus aussi, de revoir, revivre un peu cette vie qui était un peu en stand-by depuis 5-6 mois. Les gens aussi sur le bord de la route étaient contents de pouvoir revoir un événement, de pouvoir revivre, ressortir de chez eux, puisqu'on a vu pas mal de monde en dehors, ce qui était super. J'ai eu la chance on pouvait faire le tour du circuit, de voir des gens qui avaient sorti leur table, leur chaise pour regarder la course, je dirais comme avant. Ils étaient heureux de voir ce beau peloton, très magnifiquement du côté sportif, niveau, voilà, de tous les niveaux, ça s'est très bien passé.
Alors on va rappeler, Olivier, que c'est pratiquement la plus grosse course cycliste que vous ayez organisée, hein. Il y a eu le championnat de France des sapeurs-pompiers il y a quelques années. Bon, il y a la Sudivine qu'on connaît bien, mais ça c'est quand même du très haut niveau là. Puis ça va remettre ça l'année prochaine, hein, je crois savoir. C'est une belle reconnaissance pour votre club.
C'était une reconnaissance. On a eu le label, parce que c'est un label. Oui. Hein, il n'y a que 6 courses dans l'année qui est distribuée par la Fédération Française de Cyclisme, label sur les Coupes de France. Donc oui, ce label on l'a eu, parce que par rapport depuis maintenant, j'irai depuis 40 ans que le club existe, les organisations, on a fait une multitude d'organisations qui se sont bien passées. À chaque fois on est monté crescendo, et puis d'avoir le label, de pouvoir l'organiser. Au début c'était d'être la finale, mais malheureusement avec le Covid tout a été un peu chamboulé, donc c'était la troisième manche. Donc oui, c'était une course de haut niveau. Et haut niveau pour le retour de beaucoup des coureuses, c'était qu'on on leur a donné une course de haut niveau type pour les hommes. Mmh. Et ça, elles étaient très heureuses. Et pour moi, ça me paraissait tout à fait normal que j'organise une course de minime, de cadet, de senior, homme, femme, tout ça. Pour moi, l'organisation doit être la même. Mais elles, ils ont très peu la chance d'avoir des organisations comme ça. Même niveau course UCI, hein, puisqu'on est des courses professionnelles, j'ai fait un Rex avec elles. Ils ont dit non, même des courses UCI, des fois on n'a pas ce niveau-là d'organisation, niveau sécurité. Ils disaient on pouvait vraiment faire notre sport sans avoir le souci de sécurité. On n'a eu aucune voiture en face, donc voilà, on pouvait vraiment s'exprimer comme on voulait. Un circuit magnifique, c'est vrai que dire le Sud-Divine, c'est une plus belle région de France qu'on a. Hein,
oui, alors on va rappeler le circuit, et chose incroyable, ça s'est terminé au sprint.
Bah, pratiquement au sprint, hein, donc alors, bah, comme on dit, on fait toujours les parcours, hein, même Christian Prudhomme, il dit on peut faire n'importe quel parcours, c'est les coureurs ou coureuses qui décident de la
on
course.
On l'a vu sur le Tour de France aussi.
Tout à fait, hein, c'est elles ou eux qui décident. Mais voilà, une course avec quand même, il y avait 12 ascensions, des belles côtes dans la région quand même.
Oui, parce qu'on partait, faut le dire, de Rambouillet. On passait par
Sonchamps, Vieille-Église, par Vieille-Église, Clairefontaine, voilà. La Selle-les-Bordes, Bullion, et on revenait par Clairefontaine, la côte de Montjoie qui monte en niveau de l'INF. Et on revenait sur la Selle-les-Bordes où il y avait l'arrivée. Donc des côtes difficiles, puisqu'il y avait quand même 1300 mètres de dénivelé sur la totalité de la course, sur 128 km. Donc un beau parcours, mais après on a une belle échappée, à pratiquement à la moitié du temps. Donc la championne du monde qui est échappée, et se sont fait revoir dans le dernier tour.
Oui, elles avaient une 15, une 20 d'avance, on s'est dit, avec Jean-Louis Baron, avec qui on suivait l'épreuve, on s'est dit, elles vont au bout, eh ben non.
Non, parce que il y avait des grosses équipes, hein, les filles de Pays de Loire qui justement ont porté le classement par équipe et qui ont mis en route, comme on dit, hein, qu'elle veut dire qu'on met en route dans le dernier tour et qui sont revenus, ils sont revenus à 2 km de l'arrivée, hein, ils sont revenus sur les deux échappées. Et donc après, ça a permis à Gladys de gagner un sprint, un beau sprint, hein, mais assez dur quand même. Un sprint en montée, en puissance, donc voilà, non, mais, une belle épreuve.
Alors effectivement, la vainqueur c'est Gladys Verschult, donc du team Arkea, 3h08min34s pour les 119 km. Elle s'impose devant Justine Jégu, donc du team Elle Pays de Loire. La troisième c'est Iris Sachet, team Elle Pays de Loire encore. Et puis quatrième, India Granger de Charente Maritime Women Cyclisme. Et puis cinquième, donc Marie-Morgane Lundoff du Braise Ladies, qui termine d'ailleurs première junior. Il y a eu 92 concurrentes classées pour les 138 participantes.
Oui. Et puis ils étaient tous heureux. Hein. Déjà, eux, c'était une compétition, le retour à des grandes compétitions, hein, parce que pareil, ils étaient confinés. Ils avaient eu juste une grosse épreuve du côté de Morteau 15 jours avant. Donc c'était puis un circuit qui leur plaisait. Géographiquement, un peu dans le centre de la France, ça a permis de rassembler toutes les personnes de France. On a eu des gens de Hauts-de-France jusqu'à Monaco, jusqu'au Boulou, jusqu'à Argelès, Chambéry. Donc on a vraiment eu de la Bretagne, tout ça. On a vraiment eu toutes les filles de France qui sont venues. C'était intéressant pour elles parce qu'ils pouvaient repartir. Ils étaient vraiment puis découvrir la Vallée de Chevreuse. On entend toujours parler de la Vallée de Chevreuse dans le monde du cyclisme. Malheureusement, avec les organisations, c'est de plus en plus compliqué d'organiser. Et là, on a pu organiser une course pour elles, ils ont pu le découvrir. Et c'est un grand merci aux élus, les élus départementaux, régionaux, qui nous ont vraiment donné un coup de main pour organiser, parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et un grand, grand, grand merci à tous les maires qu'on a pu traverser. Le maire de la Selle-les-Bordes, qui nous a vraiment accueillis, nous a ouvert son village. Et voilà, un grand, grand merci à tous les maires Rambouillet, Sonchamps, Clafontaine, les Bullion, pour nous avoir accueillis, pour nous avoir facilité cette organisation. Un grand, grand merci à eux.
Voilà, donc Justine Jégu termine première meilleur espoir. Marion Norbert remporte-t-elle, Marion Norbert Ribérol, hein, du Star Casino belge, à sa surprise générale, eh bien, remporte avec 13 points le Grand Prix de la Montagne devant Sandrine Bidot du Saint-Michel Aubert 93. Et puis par équipe, c'est naturellement le team Pays de Loire qui remporte le prix par équipe. Alors, notre ami Guillaume, pour qui c'est le retour, qu'on salue, il est en pleine forme, eh bien, il va nous faire d'abord, nous envoyer la première interview, celle de Gladys Verschur, qu'on a naturellement interviewée à l'arrivée, toute ravie de sa victoire.
Team Arkea, vainqueur de cette troisième édition de la Coupe de France, ça s'est passé comment ?
Ça s'est passé que toutes les dames se regardaient un petit peu. Après, du coup, j'ai fait une petite alliance avec Marion Norbert-Ribrol. On était les deux individualités, donc je pense qu'il fallait s'entendre à tout prix. Du coup, quand elle est partie, j'ai rien fait, elle est partie, ils ont pris vite du temps, donc j'étais contente. Et à la fin, je pense que 60 bornes en tête, ça coince. Et du coup, on est revenu et voilà, j'ai attendu la dernière bosse parce qu'il fallait pas trop en faire. C'était un circuit exigeant quand même, donc j'ai laissé faire et j'ai fait mon dernier effort dans la dernière bosse.
Sincèrement, vous espériez revoir les deux filles de tête. Parce qu'au moment, il y a eu quand même plus d'une minute 20.
Oui et non, parce que je sais que Marion a repris le cross dans une semaine, donc je savais qu'elle commençait à être en forme, je pense. Sandrine Bidot, c'est une bonne rouleuse. Donc non, je pensais pas qu'on allait revenir. Après, on est revenu, tant mieux pour moi, quoi.
Oui. Bon, voilà, vous gagnez cette manche. Ça va devenir une véritable ambition, cette Coupe de France.
Non, du tout. Non, non, ça s'est décidé il y a une semaine que je viens là parce que j'étais pas sur le Tour de l'Ardèche ou mon équipier. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller faire une Coupe de France, ça fait longtemps. Et bah, tant mieux pour moi, c'est cool, c'est la première victoire de la saison.
Ah bah c'est bien. Et comment vous avez trouvé ce parcours et notre région?
Mais c'était super bien, hein, franchement. C'est usant, honnêtement, c'est usant. C'est un beau parcours. Bon, il manque un tout petit peu de vent pour que ça fasse encore plus la difficulté, mais c'était un beau circuit, j'ai bien aimé. Et s'il faut, je reviendrai.
D'accord. Et maintenant, la suite de la saison, c'est quoi?
Du coup, là, le 20 septembre, je vais faire Isberg. Et ensuite, ça reste un peu flou. On a la Flèche, Liège dans le calendrier. Après, ça dépendra de la crise sanitaire, si c'est autorisé ou pas, quoi, et on verra.
En tout cas, ça a été une belle promo aussi pour le vélo féminin, en plus, hein, aujourd'hui.
Oui, c'est clair. En plus, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est cool. Donc, si ça peut le faire évoluer de cette manière, c'est vachement bien, ouais.
Eh ben, bravo, en tout cas. Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, Olivier, première victoire pour Gladys, fatalement, on s'en rappelle. Hein.
Bah, tout à fait, on s'en rappelle. Pour nous, c'est un super rayon de soleil. Hein, parce qu'elle était quand même vice-championne de France 15 jours avant, non, 3 semaines avant. Donc voilà, c'était une bonne image, bonne affiche pour nous. Le fait de voir revenir, toutes les filles veulent revenir, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau terrain de sport. Donc voilà, ça nous réconforte pour l'année prochaine. On est sollicité par les élus. Et la Fédération française de cyclisme qui souhaite qu'on fasse la finale l'année prochaine. Donc là, qui était vraiment content du niveau d'organisation, comme on disait tout à l'heure, vraiment un haut niveau d'organisation pour les filles, qu'ils ne voient très très peu, à part au niveau du championnat de France. Donc voilà, on est content. Les bénévoles, tous les bénévoles élus étaient très contents et fiers du résultat et de pouvoir repartir pour l'année prochaine.
Très bien. Deuxième interview, celle de Marion Norbert Ribérol. Alors elle a remporté le Grand Prix de la Montagne et elle était autant étonnée que Gladys pour sa première victoire d'avoir été donc élue meilleure grimpeuse donc de cette troisième manche de la Coupe de France sur Bullion. Alors, avec Marion Norbert Ribérol, Marion, vous avez été très longtemps échappée, hein, vous y avez cru jusqu'au bout?
Oui, bah moi à la base en fait je suis venue là pour la préparation de ma saison de cyclocross en fait, je reprends donc le week-end prochain en Suisse. Donc l'objectif c'est de faire des efforts, donc quand je me suis retrouvée en échappée j'étais contente. Après Sandrine Bidot m'a rejoint et je sais qu'elle roule bien, donc on a roulé à deux et puis bon on a cru. Après quand, vers la fin on a vu aller moins 10 minutes, là on s'est dit merde. Puis après bon, on a essayé de rouler quand même assez fort, mais c'est quand même rentré quoi. Puis quand c'est rentré la dernière bosse, j'étais un peu plus qu'en difficulté.
Oui, parce que quand même, l'entente semblait bonne entre vous deux.
Ouais, bah ouais, on discutait bien et on s'est bien entendu. Je lui ai dit, je fais le plat et tu fais les bosses, donc ça va, on s'est bien entendu.
Bon, meilleure grimpeuse, hein.
Qui l'aurait cru. C'est pas mon fort, les bosses, mais au final, je suis meilleure grimpeuse. Hein.
Alors justement, comment vous avez trouvé le parcours? Parce que parcours très, très, très accidenté, hein, très sélectif.
Honnêtement, non, c'est bon, je vais garder. Honnêtement, j'ai commencé les Coupes de France en 2017, c'était toujours les mêmes circuits. Franchement, je pense que c'est vraiment digne d'un championnat de France, honnêtement. C'était vraiment un super circuit. Un jour où il y a plus de vent, je pense que ça peut être vraiment très dur et faire vraiment la course. Mais franchement, moi, je suis vraiment contente d'être venue là et c'était vraiment un circuit assez sympa.
Bon, maintenant, tout pour les cyclocross alors, ou il y a encore un peu de route?
En fait, là, les courses sur route que je fais, c'est tout pour le cyclocross, mais encore trois courses sur route et après, je mets le vélo de route sur le pied et je serai focus sur le cyclocross.
C'est bien, beaucoup de monde aujourd'hui, un bel promo pour le vélo féminin.
Ah ouais, carrément, et puis je sais qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de filles qui se battent pour ça. Écoutez, plus ça ira en avant, mieux ce sera.
Hein. Bon, tant mieux, puis vous pouvez maintenant enlever le casque.
Merci. Oui, merci.
Merci en tout cas.
Voilà, effectivement, elle est en train de se débattre avec son casque Marion pendant l'interview. Sympa, elle s'y attendait pas, hein, à ce trophée de meilleure grimpeuse sur cette épreuve de Bullion avec arrivée à la Célébrande.
Elle s'y attendait pas, mais bon, quand elle m'avait contacté en début de, avant la semaine, elle m'avait appelé directement pour savoir si elle pouvait participer, parce qu'en tant que professionnelle, en plus, en licencié à un club belge, donc UCI, donc c'est un peu compliqué de s'organiser sur une épreuve française, à part, il fallait le faire avec la Fédération française de cyclisme, on est resté. Et donc elle disait qu'elle voulait vraiment préparer sa saison cyclocross et qu'elle cherchait des épreuves de bon niveau assez corsées. Donc elle est arrivée et puis elle a joué le jeu, elle a fait la course hein, et donc en faisant la course, ben elle s'est trouvée échappée. Elle était un peu étonnée d'être meilleure grimpeuse, mais bon, elle a fait quand même pratiquement quatre tours échappés avec Madame Bidot. Donc ils ont vraiment fait la course, ils ont été devant, donc c'est normal. Et puis pas, même pas trop les bosses, la façon qu'elle grimpait les bosses, il y a beaucoup d'hommes derrière, ils étaient vus de loin, donc donc parce qu'ils ont quand même fait 38,7 de moyenne hein, sur le parcours, donc c'était vraiment du haut niveau. La première heure, ils ont fait 47 km/h dans la première heure, donc c'était vraiment du très très haut niveau.
Et puis, bah, dernière interviewée de cette matinée, il était à la conférence de presse hein, à laquelle on avait assisté malgré nos congés radiophoniques à Bullion. Hein, on avait pu entendre les interviews qu'on avait ramenées dans nos journaux d'info locales. Eh bien, le président du comité départemental de cyclisme des Yvelines, Frédéric Braille. Allez, avec Frédéric Braille, donc président du comité départemental de cyclisme des Yvelines. Frédéric, grande et belle journée sur la Célébore des Rambouillets aujourd'hui.
Oui, une très belle journée, une très belle course, un parcours très bien et explicite pour les féminines qui on a eu déjà quelques retours et qui ont trouvé ça très très bien. Voilà, une course un peu nerveuse au départ, mais avec quelques chutes on a eu, mais qui s'est stabilisée avec de belles échappées sur plusieurs tours et une arrivée au sprint quand même qu'on pensait pas sur un circuit comme celui-là, mais comme quoi on peut se tromper.
Ouais, ça paraît quand même incroyable, quoi. Un tel circuit aussi sélectif et une arrivée groupée au sprint.
Bah oui, une arrivée groupée au sprint, deux féminines échappées. Est-ce qu'elles ne se sont pas entendues à rouler? Je n'étais pas sur le circuit, donc je ne pourrais pas le dire.
Apparemment si, hein, mais enfin bon, après le peloton a bien réagi derrière.
Mais donc si elles ont bien roulé, ça veut dire que le, on va dire dans le jargon, le peloton a vissé derrière pour rentrer et ils l'ont très bien fait puisqu'elles ont été rattrapées et la sélection même dans la dernière bosse ne s'est pas faite. Et donc on a si bien assisté à une arrivée au sprint.
En tout cas, une belle promo pour le vélo féminin, surtout dans notre département.
Une belle promo pour le vélo féminin, puisque dès aujourd'hui, on devrait reconduire une Coupe de France sur le département des Yvelines. Voilà, en espérant avoir la finale, puisque c'est ce qui était prévu au départ. Et vu les circonstances sanitaires, nous avons décalé les Coupes de France. Donc nous ne l'avons pas eu cette année, mais d'après ce que j'ai entendu et notre parcours qui a plu à vraiment tout le monde, et on nous a même dit que c'était digne d'un championnat de France complet, donc je pense que l'année prochaine on aura une finale de Coupe de France femmes.
Ouais, sur un parcours à peu près identique, légèrement modifié peut-être.
Bon, je pense qu'on modifiera légèrement le parcours pour varier aussi le plaisir et varier les choses, mais nous resterons sur la région parce qu'on a une municipalité et des conseillers régionaux qui nous accueillent grand volontiers, et du coup nous resterons sur le territoire de Rambouillet.
Et puis le cyclisme et les Yvelines, c'est une belle histoire d'amour. Hein.
Oui, tout à fait. Le cyclisme et surtout le cyclisme et les Yvelines en général sont une terre de sport, une terre de vélo. Le président Bédier le dit assez souvent. Et on en a encore la preuve aujourd'hui puisqu'on a une très très belle épreuve et tout le monde nous félicite de ce parcours. Quoi.
Bon Frédéric, pour finir, avec les conditions sanitaires, ça n'a pas été trop compliqué pour votre sport dans notre département cette saison?
Alors très compliqué non, on a fait un protocole sanitaire au niveau de la préfecture qui est passé vu qu'on a eu les autorisations et les arrêtés préfectoraux dans la foulée. Voilà, aujourd'hui les maires ont pris des arrêtés pour le port du masque obligatoire sur la Célébore, donc l'arrivée et sur Rambouillet. Donc on n'a pas eu de problème particulier et puis on s'aperçoit que le masque a priori est rentré dans le quotidien des gens, vu que aujourd'hui on n'a pas eu de police à faire, on va dire entre guillemets, pour ce genre de choses.
Très bien Frédéric, merci en tout cas, à très bientôt.
Merci à vous.
Voilà, bah même nous, hein, on interview masqué, donc rendez-vous l'année prochaine, 2021, pour cette nouvelle manche de la Coupe de France. Ça sera probablement la finale. Puis on va dire que c'était aussi le trophée Gérard Larcher pour grimper de la montagne.
Oui, Monsieur Larcher avait tenu à, comme il ne pouvait pas être présent avec ses relatifs, donc il avait tenu à offrir une coupe et c'était le prix du meilleur grimpeur qu'on a remis donc à Marion Norbert Ribelon. Donc voilà, le prix du meilleur grimpeur. Vraiment magnifique.
Allez, plus de musique et ensuite on parle des deux patrimoines du sport français, le Tour de France et les 24 Heures du Mans. Proto.
C'est la rentrée à la Bassienne de Menuiserie. Du 14 septembre au 17 octobre 2020, profitez de 15% de remise sur une large sélection de fenêtres, portes d'entrée, volets, stores, portails et portes de garage. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. À Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom au 27 rue de Chartres, au Perret en Yvelines. Voir conditions en magasin, offre non cumulable avec toute offre en cours. Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold. Le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville. Réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Région avec RVE.
Oui, nous sommes le 20 septembre, dernier dimanche de l'été, mais alors quel feu d'artifice, hein. Arrivée du Tour de France aujourd'hui, 24 heures du Mans, et naturellement, vous reprenez les bonnes habitudes, hein, vous réécoutez nos émissions en podcast, hein, puisque cette émission sera très rapidement en ligne. Alors, Stéphane, que se passe-t-il actuellement au Mans? Il reste aller presque un peu moins de 4 heures maintenant pour l'arrivée. Alors souvent, le Mans, ça se joue la nuit.
Exactement, alors ça se joue la nuit, et cette année, la nuit était longue.
Oui.
C'est
ça
qui était surprenant, c'est-à-dire qu'il a fait nuit tôt hier soir, et puis il a fait jour tard ce matin. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'être sur place, la nuit arrive vers 11h, entre 11h et minuit. Et là, hier soir, il fallait allumer les phares dès 19h30. Mm-hmm. Par contre, cette année, comme les conditions météo, pourtant on nous prévoyait pas mal d'orages, mais elles ont été plutôt clémentes. Il n'y a pas eu tant de choses que ça qui se sont passées cette nuit, sauf bien sûr le problème mécanique sur la Toyota numéro 7 qui a eu un problème de turbo, qui restait pas mal de temps au stand, ce qui fait que de là, à l'heure actuelle, à 4 heures pile, pile poil de l'arrivée, donc on a une Toyota en tête, mais suivie par les deux rébellions, et l'autre Toyota, la deuxième, est quand même un peu distancée. Donc on se souvient tous qu'il y a 4 ans, dans le dernier tour, la Toyota avait rencontré des problèmes, Porsche avait gagné sur le fil. Porsche qui n'est pas officiellement là cette année, qui est juste en GT, mais c'est vrai que Porsche avait gagné à l'époque, c'était sa 16e victoire sur ses 17, ce qui représente le record de victoire au Mans. Et donc jusqu'au bout, je pense que Toyota va se souvenir d'il y a 4 ans, l'histoire va-t-elle se répéter ?
Le suspense demeure.
Ouais. Donc en proto, en LMP1, en LMP2, deuxième catégorie des protos, notre Alpine qui a été distancée hier remonte tout doucement, même si elle a peu de chances de l'emporter, mais va-t-elle finir sur le podium ? Elle a été distancée hier suite à une petite touchette et ils sont en train de bien remonter. On voit que c'est vraiment une équipe au top et l'année prochaine ils vont passer en LMP1. Donc on va avoir des couleurs françaises à nouveau au plus haut niveau, le retour de Peugeot aussi qui est annoncé pour 2022. Donc c'est plutôt sympa les perspectives pour les prochaines 24 heures du Mans sont au beau fixe. Et pour finir le point, en GT, il y a une super bataille entre Aston Martin et Ferrari. Et suivant les arrêts, c'est je passe devant, je repasse chacun son tour. Donc là, pareil, il va falloir suivre les dernières heures. Donc on est content, il fait beau, la piste est magnifique.
Il n'y a pas la vie autour qu'il y a habituellement, parce que Le Mans, c'est ça aussi.
Hein. C'est l'ambiance. Et c'est vrai quand on regarde les images vues d'avion, il n'y a pas la fête foraine, les tribunes sont vides.
Il n'y a pas les concerts, il n'y a pas
c'est une ambiance. Devant la télé, c'est confortable, parce qu'on voit bien la course, on a les ralentis, mais ça manque. Les 24 heures du Mans, c'est une fête populaire. Mm-hmm. C'est comme le Tour de France, quand tout le public sort au bord de la route.
Ça tombe bien, ça tombe ce dimanche.
Ça fait partie les journées du patrimoine. C'est vrai que c'est assez incroyable que ça tombe. Et c'est un des événements populaires les plus suivis en France et dans le monde. Il faut savoir aussi que c'est suivi partout et que le relais télé, sauve aussi un petit peu la mise à la CO, parce qu'il y a les droits internationaux qui permettent de rentrer un petit peu de sous, parce que c'est vrai que quand le public n'est pas là, la trésorerie peut en souffrir.
Et puis c'est vrai que quand on connaît pas forcément grand chose au sport automobile, la seule course qu'on connaît, c'est les 24 heures du Mans, fatalement.
C'est les 24 heures du Mans.
On nous cite les 24 heures du Mans comme ceux qui citent le Tour de France, alors qu'ils ne connaissent pas grand chose au
24 heures du Mans. Et après, il y a toujours un peu le Grand Prix de Monaco et le Rallye Monte Carlo, mais c'est vrai que les 24 heures du Mans, ça fait partie du mythe. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça fait partie des courses de la triple couronne. Il faut qu'il y ait 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis. Et il a été champion du monde de Formule 1. Et là, on a gagné la triple couronne, ce qui représente en fait les trois plus grandes compétitions automobiles au monde.
Alors, parmi les pilotes qui participent aux 24 heures du Mans, souvent, dans le passé, il y avait des pilotes de Formule 1 qui faisaient un peu tout. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est beaucoup pour la reconversion. Certains l'ont fait, les 24 heures du Mans.
Par exemple, Alonso.
Oui, c'est ça.
Ils viennent, ils ont la possibilité de venir. Alonso, l'année prochaine, va repartir en Formule 1 chez Renault. Donc, c'est sûr qu'il sera pas au Mans. Et là, cette année, c'est particulier parce qu'on retrouve toutes les épreuves et c'est bon pour toutes les disciplines. Il faut que tous les championnats aient lieu en 4 mois. Donc autant avant, certains pilotes pouvaient se permettre de venir au Mans, mais là il y a des grands prix tous les week-ends, tous les 15 jours. Donc le il y a énormément d'épreuves en peu de temps. Donc effectivement, c'est difficile cette année, mais sinon c'est vrai que souvent au Mans, on retrouve des pilotes de Formule 1 ou même d'autres disciplines de très bon calibre, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette épreuve, c'est qu'il y a des pilotes qui viennent d'un peu tout, et c'est toujours ça fait rêver tout le monde, et tous les pilotes en parlent comme d'un mythe et d'un Graal à les conquérir.
Oui, bon, on se rappelle Jacques X qui a tout gagné, la Formule 1, des rally raids et puis des courses d'endurance.
Exactement, voilà, Jacques X qui, voilà, c'est le meilleur exemple,
un touche à tout.
Ouais, bah c'est un Belge et les Belges sont très forts pour ça.
Hein. Bon, bah c'est bien, Stéphane. Très brièvement, la suite pour vous, c'est quoi ?
Alors, bah, moi, dans 15 jours, je vais participer au Tour de Corse historique. Mm-hmm. Donc, voilà, la version véhicule ancien du Tour de Corse, qui est un des rallyes aussi mythiques au niveau du championnat du monde des rallyes. Donc, on est parti pour faire 1000 km sur une semaine, avec bien sûr départ de Porto Vecchio, remontée sur Bastia, et on redescend Porto Vecchio via Ajaccio, avec toutes les spéciales mythiques, ces petites routes fabuleuses de Corse. Où on va se faire plaisir. Là, je serai copilote sur une Porsche 911. Et voilà. On a hâte. Et normalement, la course est maintenue, même si on sait qu'il y a d'autres épreuves, malheureusement, où c'est pas le cas. Il y a des épreuves qui sont annulées. Donc, nous, on croise les doigts pour que dans 15 jours, on puisse être au départ.
Très bien, vous nous tiendrez au courant.
Ah bah, avec plaisir.
Voilà. Ok, puis vous restez avec nous jusqu'à la fin, puisque naturellement, l'événement de la journée avec les 24 heures du monde, c'est l'arrivée du Tour de France. Olivier, RVE sur la route du Tour, comme chaque année. J'ai envie de dire, cette année, le vainqueur du Tour de France, c'est le Tour de France.
Tout à fait, vainqueur du Tour de France, déjà d'avoir fait le Tour de France, d'avoir combattu le Covid, puisqu'on voit beaucoup d'épreuves.
Il est plus fort que le reste, le Tour. Il a tout survécu, au dopage, au Covid, tout. Il n'y a que les guerres qui l'ont arrêté.
Oui, même les Jeux Olympiques, on part ici. Pour dire que le Tour de France est vraiment fort, au-dessus des Jeux Olympiques, puisqu'ils ont réussi à le maintenir. C'est un peu le poumon aussi, un peu le poumon du sportif en France. Hein, le Tour de France, au mois de juillet, ça rassemble tous les vacanciers. Là, au mois de septembre, ça relance tout le monde. C'est l'avoir fait, dont un protocole vraiment strict qui se passe pas mal, hein, apparemment. Donc,
c'est vrai que pour nous journalistes, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'était normal.
Voilà, c'est un peu compliqué pour pas mal de gens, même pour les coureurs, hein, parce que les coureurs, ça va faire quand même 5 semaines qu'ils sont dans une bulle. Sortie du championnat de France. Moi, j'étais au championnat de France. Les gars, ils rentraient dans leur bus. Voilà, c'était
pas
le début.
Pas de bus aujourd'hui aux Champs-Élysées. On ne pourra pas les approcher.
On pourra pas les approcher. Il y aura moins de public, il y aura moins de choses. Mais là, depuis le championnat de France, ils sont rentrés dans leur bus, dans un confinement prévu pour 5 à 6 semaines. Et même pour certains, ceux qui vont enchaîner sur le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, ils vont continuer. Donc il y en a certains qui vont rester dans un confinement pratiquement pendant 15 à 20 semaines. Donc là, ça va être vraiment assez lourd. Mais il faut y passer par là pour continuer par ces événements, parce que malheureusement, tout le nombre d'événements sportifs ou culturels qui ont disparu, c'est un événement majeur qui a plus... persister puis se réaliser dans de bonnes conditions.
Oui, puis alors, Olivier, il a fait une météo identique à celle du mois de juillet, excepté le premier jour à Nice. Mais enfin, il y a toujours un peu de pluie sur le Tour de France. On a eu un monde fou au bord des routes, autant qu'au mois de juillet, et puis un final auquel peut-être certains ne s'attendaient pas. Et en plus, historique, puisque c'est un Slovène qui va remporter le Tour de France et qui sera le plus jeune vainqueur d'histoire du Tour et qui remporte le Tour pour sa première participation. Donc c'est peut-être un futur très grand.
C'est un futur très grand. C'est un futur très grand. Comme on a une génération qui va arriver, ça va être phénoménal.
C'est le tour des nouvelles générations.
Un ensemble de générations. Là, on a 10 phénomènes qui vont arriver à peu près. Je pense que les futurs tours vont être explosifs. Un Tour de France pour tout le monde. On a enlevé le surplus de spectateurs un peu indélicats qui permettait déjà malheureusement sportivement à empêcher certaines choses. On a eu de la grande population, mais voilà, on a enlevé le surplus qui était à la limite dangereux. Voilà, ça s'est permis. On a vu hier la traversée, quand on voit la traversée du village de Pinot, c'est vrai qu'il était là, mais on a l'impression d'être en haut d'un col. C'est traversé, et puis l'arrivée, c'était magnifique à voir, magnifique. Et puis aussi, avec énormément, les gens, quasiment tous avec les masques, c'est vraiment pris en compte. Ça, c'était vraiment le côté positif d'avoir voulu le faire, de l'avoir fait, et dans des très bonnes conditions, avec les gens, on voit sur le bord de la route avec le masque. Donc, les gens ont bien pris conscience. Et ça permet aussi de renforcer l'envie de le faire. Et comme le disait Monsieur Macron, le président, il faut vivre avec, il faut qu'on continue, sinon on va mourir petit à petit. Voilà, le Tour de France a permis de faire voir qu'on peut continuer à faire des événements haut niveau, mais bon, avec des précautions, mais voilà.
Et puis des audiences télé sur le Tour largement supérieures à toutes les audiences télé sur le Tour depuis 2013. On a même fait mieux que l'année dernière, alors que c'était un des tours les plus beaux qu'on ait eu sur ces dernières années. Eh ben, on a fait beaucoup mieux. Les audiences télé, elles sont les meilleures depuis 2013 sur le Tour.
Et un boom dans les, oui. dans les diffusions sur smartphone, sur les applis, parce que les gens étaient au travail, mais un boom énormément dessus. Hein, de Tour de France, la société Tour de France qui a un site, ont explosé, je crois que c'est multiplié par 50 le nombre de personnes qui sont venues sur leurs accès. Voilà, donc oui, un suivi, les gens avaient besoin. Les gens avaient besoin de revenir, avaient besoin de se reconfronter, de vivre, voilà, de se libérer. Mmh. Et donc c'est un des moyens, même les gens qui sont sur la route, de pouvoir revivre, voilà. Comme on dit des fois, ben on oublie tout le reste. Voilà, on va au Tour de France, on oublie tout le reste.
Le Tour de France, ça permet de vibrer. Tout le monde avait envie de reconnaître, enfin de recommencer à vivre des événements sportifs en live, en direct. Et puis c'est ça, le sport, c'est des gens qui vont au bout de leur effort et on a envie de le voir, de partager ces moments-là.
Non, et puis on va au cœur des villages, on va au cœur des populations, on va au cœur de certaines régions, quoi.
Tout à fait. Les élus étaient heureux de voir revivre leur village.
Contrairement à ce que certains disent, hein, mais bon, voilà.
Oui, mais bon, ça, tout le monde a le droit de s'exprimer.
Il y a un peu d'intégrité.
Même les bêtes ont le droit de s'exprimer, donc voilà. Mais voilà, tous les ans, majorité des élus étaient heureux de voir revivre leur village. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils ne comprendront jamais rien. Mais bon, ça, c'est pas leur problème.
Stéphane, ça a été des images merveilleuses. En plus, vous parliez du patrimoine aussi de la France. L'île d'Oléron, l'île de Ré, qu'on connaît bien. Chapeau, hein, belles images. Hein.
Ouais,
ça a été très vite, en plus, une étape très nerveuse.
Oui, une très belle étape. Ouais. Et puis, c'est vrai que pour les Charentes maritimes, voilà, c'est une belle opportunité de montrer ces images. Et si ça fait venir des touristes à l'avenir, pour les prochaines années, écoutez, on est tous très contents qu'il y ait cette diffusion. Et c'est vrai que toutes les régions de France en profitent. C'est ça aussi, c'est que le Tour de France, tout le monde aime le regarder pour dire, cet endroit je connais, j'ai des racines. Et le rythme du vélo permet aussi de profiter pleinement de tous ces paysages. C'est vrai que quand on passe en rallye ou en Formule 1 sur des circuits, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc le vélo permet quand même de profiter.
Ils sont à 60-70.
C'est vrai qu'ils vont quand même vite, mais avec un hélico, ça permet quand même de les suivre et puis de voir de belles images.
Et c'est vrai que
le vélo a cette particularité. On est toujours au bon rythme en vélo. On se fait toujours plaisir quand on roule, parce que finalement, on voit quand même pas mal de choses. Et voilà, il faut encourager les gens à faire du vélo, je pense, comme on avait dit. Les Yvelines, c'est une belle région, un beau département. Allez, tout le monde sur la petite Reine.
Et il y a beaucoup de pilotes automobiles qui font du vélo. On va revenir donc sur ces 3 semaines de compétition. Ça avait commencé donc à Nice, Nice, pays moyen, victoire de Christophe. C'était la première étape, donc avec beaucoup de chutes, notamment celle de Pinot.
Oui, malheureusement, 70% des coureurs étaient quasiment tombés. Ouais. Ce qui a un peu perturbé, en plus du côté français, puisque Thibaut est tombé, ses chances ont été vite assez mis à terre, qu'à le dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est le seul côté, point noir, c'est la pluie sur Nice, plus qu'il n'y avait pas plu depuis 4 mois.
C'est le seul jour.
Je ne veux pas dire que ça aurait été dans une autre région, ça aurait été peut-être moins risqué, mais sur Nice, en plus avec les routes, voilà. C'était le seul point négatif de ce côté-là, mais bon, le Tour de France a toujours cette journée de plus spécifique.
Donc ça, c'était il y a 3 semaines, donc Nice, moyen pays Nice. C'était 156 km, donc Norvégien Christophe qui gagne. Le lendemain, ça c'était une véritable étape de montagne, Nice au pays Nice, 186 km. Alaphilippe, il a réédité l'exploit d'Épinal. C'est lui qui fait la différence dans la dernière bosse d'arrivée. Et puis, il règle avec beaucoup de maîtrise, Hirschi au sprint. Il prend le maillot jaune.
Il prend le maillot jaune et puis il avait une envie. Ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas gagné.
Il est dédié à son papa en plus.
Et voilà, dédié à son papa, mais ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas gagné, puisque le Tour de France 2019 l'avait marqué aussi bien physiquement, mais surtout moralement. Parce que c'est très dur, de 15 jours en jaune, la pression était énorme. Donc sa carrière après en a subi des conséquences. Donc là, renouvelé avec la victoire, puis maintenant il a une pancarte, c'est plus une pancarte. Ouais. Tout le monde est dans son porte-bagages et encore ça arrive à se débarrasser de certains coureurs. Il fallait vraiment être énorme. Et puis une maîtrise, maintenant qu'il maîtrise des grands événements, des grandes arrivées au sprint, a fait qu'il a pu remporter cette belle victoire.
Alors ensuite, le lundi, le 31 août, c'était la 3e étape à Nice. Sisteron, très belle ville. Là, c'est arrivé au sprint, hein, Cadel Ewan qui l'emporte et Alaphilippe qui garde son maillot jaune. Le lendemain, on a été un peu déçu, Olivier, hein, 160 km 500, Sisteron au Cermerlette. Alors, on s'est dit, on va retrouver des écarts à la Luis Ocaña. Et puis, finalement, bah, c'est Roglic qui gagne. Alaphilippe garde le maillot jaune, mais Roglic gagne sans qu'il n'y ait pas eu de grosses batailles, hein, puisqu'on arrive pratiquement groupé parmi les favoris. Il marque un petit ascendant psychologique à ce moment-là, quand même.
Alors, Cermerlette. Oui, mais voilà, c'est peut-être la sa défaite aussi.
Oui, on va en reparler.
Voilà, c'est peut-être sa défaite. Voilà. Il a pas su aller en plus que ce qu'il fallait. Ils ont gagné la course. Il a remporté la course parce que bon, là, il avait l'équipe qui a entraîné et justement, c'est peut-être l'équipe.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse bataille parmi les favoris. On s'y attendait. Alors, Cermerlette, c'est quand même mythique dans le vélo. Hein.
Tout à fait.
Ouais. Alors ensuite, le lendemain, mercredi 2, 183 km, Gapriva, là, c'est vrai que ça a temporisé, on peut comprendre les coureurs, et c'est le talentueux Van Aert qui s'impose. Par contre, fait marquant, Yates prend le maillot parce que Alaphilippe perd 20 secondes pour un approvisionnement qui n'était pas légitime, dirons-nous.
Tout à fait. Bah, je dirais que tout le monde le sait, dans les 20 ouais. km, on ne prend pas de bidon, que ce soit coureur, dirigeant, là, bon, il y a encore des obscurités sur ce fait-là. Bon, apparemment, le dirigeants se croyaient plus loin que 20 km, parce que c'est vrai, les directeurs sportifs qui coupent les routes pour venir donner les bidons, ils pensaient être une autre route, donc il s'est dit je peux donner le bidon alors qu'il était déjà passé les 20 km. Voilà. Donc c'est un fait, ça fait parler, fait un rappel un peu aux directives, aux règlements du Tour de France et des courses cyclistes.
Donc c'était l'étape Gapriva, 183 km. Le lendemain, 191 km entre Le Teil et le Motegual. Hein, là aussi, Loutchenko fait un beau numéro. Hein, il s'est rescapé d'une échappée en solitaire, mais pas véritablement de bataille parmi les principaux leaders. Le lendemain, par contre, on s'est rattrapé, 168 km, Millau-Lavaur, c'est Van Aert qui s'impose. Mais alors, ça roulait, cassure, et justement notre ami Pogacar qui perd plus d'une minute donc dans cette cassure.
Oui, voilà, j'irai un peu la jeunesse et puis un peu l'équipe qui n'était pas suffisante. Mm-hmm. Mais bon, on s'aperçoit que peut-être c'est peut-être ce qui a fait son jeu aussi, d'être tout seul, d'avoir profité du jeu des grandes équipes.
Mais le Tour, c'est ça, hein, c'est les coureurs qui font la course. Hein. On l'a vu, il y a eu des étapes à Albi l'année dernière, ou même dans le passé, à Saint-Amand-Montrond, où on pense qu'il ne va rien se passer, et puis y a le vent qui est favorable pour faire des bordures, et puis voilà.
C'est eux qui font la course.
On peut
leur donner n'importe quel parcours, n'importe quel. C'est eux qui décident de faire la course, s'ils ont envie de taper dedans, de visser, de tout faire ce qu'on veut, de se reposer, parce qu'on des étapes aussi, on dit c'est un peu long, mais bon, comprendre que des fois, passer 3-4 étapes dans l'école, l'étape d'après, on a envie d'un peu de souffler. Voilà, donc ça fait, mais voilà, c'est eux qui décident, hein, c'est eux les maîtres de la route.
Donc ça, c'était entre Millau et Lavaur, 168 km, et puis le lendemain, Cazères-sur-Garonne, Loudenvielle, 141 km, et là, c'est la révélation d'un garçon, Nance Peter, le rescapé d'une échappée très précoce, Nance Peter, le français, qui imite Laurent Brochard, vainqueur en 97 à Loudenvielle. Belle victoire, hein, en costaud de Peter.
Ouais.
Et puis le lendemain, le dimanche, Paul à Reims, le jour même où on était donc sur l'épreuve féminine de Bullion, 153 km, Pogacar qui s'impose au sprint, malgré le beau travail d'Hirschi qui rejoint vraiment presque sur la fin.
Tout à fait, mais une épreuve assez dure, hein, parce que ça avait bien roulé, ça a pas mal de conséquences, puisque c'est là que Thibaut a un peu explosé, carrément explosé. Donc voilà, non, une très belle épreuve dense. Dense.
Mmh. Alors, en une semaine, tout était groupé encore, hein, il n'y avait aucune position, et c'est là qu'on arrive à cette belle étape, hein, entre l'île d'Oléron et puis l'île de Ré, 168 km 500 au sprint, c'était normal, ça a beaucoup roulé, ça a été très vite, il y a eu beaucoup de chutes, et c'est Sam Bennett qui s'impose, donc l'Irlandais, et qui a peut-être construit sa victoire pour le maillot vert à cette occasion.
Exactement, et puis c'est vrai que bon, les conditions étaient bonnes, mais c'est ce qu'on disait, hein, on a eu un tour au niveau conditions météo, c'était parfait. Hein.
Ouais. Ensuite, donc, mercredi 9, 167 km 500, Châtelaillon-Plage Poitiers, étape traditionnelle, classique, c'est Ewan donc qui s'impose pour la deuxième fois sur ce Tour de France, et le lendemain, Chauvigny, donc, Sarran-Corrèze, 218 km, étape la plus longue du Tour, hommage à Raymond Puydor, à Antoine Blondin et à Jacques Chirac, et c'est Hirschi, le Suisse, qui s'impose en solitaire, lui aussi, le rescapé d'une belle échappée.
Tout à fait, là, il a profité. Et, pendant tout ce tour, hein, l'équipe Sunweb ont vraiment fait la course d'attente, partir au bon moment. Ils ont vraiment très très bien joué, ils ont senti la course. Et parce qu'ils n'étaient pas non plus les super favoris, mais ils ont su profiter des erreurs des autres pour gagner.
Oui, parce que deuxième derrière à la Philippe Anil, troisième de l'étape de la Reims, en ayant été rejoint à 900 mètres, il l'a mérité son étape super combative du Tour d'ailleurs.
Tout à fait, tout le long du Tour, on les a tous vus présents, cette équipe Chamouet.
Alors là, étape de légende, Châtel-Guyon puis Marie-Cantal, 191 500 km, du beau spectacle, c'est un Colombien qui s'impose, Martinez, on commence déjà, certains, à voir que le Tour déjà se perd pour beaucoup et d'autres se positionnent pour les victoires finales. Là, ça a été le premier gros écrémage chez les favoris.
Tout à fait, là, le premier écrémage des distances, des temps, des trous d'un seul coup, des cassures pour certains favoris qui sortent de la dernière liste de vainqueurs. Voilà, bon, ça commence, on voit les faiblesses, on commence à voir les faiblesses de certains.
Et puis le lendemain, c'est Clermont-Ferrand-Lyon, 194 km. On s'attendait à Narvé au sprint. Et puis finalement, en finisseur, le Danois Krak Andersen s'impose. Beau numéro pour prendre la poudre d'escampette et finalement s'imposer devant ce peloton important. Et puis Lyon, grand colombier, là aussi. Autre grand numéro, le dimanche donc 13 septembre, 174 500 km. C'est Pogacar qui remet ça.
Tout à fait, il remet ça, il profite. Puis on sent que voilà, on sent qu'il y a du potentiel d'attaquant. Parce que Pogacar, il a fait le tour, mais il s'est géré, il a tapé. On connaît la finalité maintenant, mais pendant le tour, il a attaqué Roglic. Il s'est pas contenté de le suivre.
Bien sûr.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à la fin, il a attaqué, il a piqué des pics, et voilà, il a fini par atteindre son but. Voilà, mais il a attaqué. Voilà. Il a tenté de déstabiliser, il est arrivé.
Alors mardi 15, 164 km entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans, beau numéro de Kamna, lui aussi, l'Allemand, souvent aux avant-postes, rescapé aussi d'une échappée précoce qui s'impose en beauté. Et puis le lendemain, une étape qui fera date, Grenoble, Méribel, Col de la Louse, la Louse pour certains, 170 km. Et là, c'est un autre Colombien, Lopez, qui s'impose, mais là, énorme spectacle et énorme respect.
Hein, ah oui, là, les coureurs, ils se sont dit, on ne savait plus si on était en Espagne ou en France. En Espagne, on voit souvent, on arrive à voir des étapes comme ça, avec des montées prestigieuses. Là, vraiment une montée dantesque. Hein, c'est dans de bonnes conditions, pas trop chaud. C'était vraiment une bonne condition, mais vraiment.
Je pense qu'on va le reprendre, ce col de la Louse.
Je pense qu'ils ont pris un billet d'abonnement.
C'est comme la
pointe
des belles filles. Hein, voilà,
je pense qu'ils ont pris un billet d'abonnement. Mm-hmm. Voilà, je pense que. Ouais. Il mérite.
Alors, 175 km le jeudi 17 entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Kakowski qui s'impose devant Carapaz. Sympa cette image où ces deux coureurs arrivent ensemble. Ça a été décrié, mais finalement, bon, je trouve que c'est bien.
Oui, on a plusieurs points de vue, mais enfin, ça récompense un peu Kakowski depuis des années, qu'il emmène ses leaders et qui, au moins, il peut bénéficier de cette victoire et c'est un grand retour pour lui.
Et puis, Krak Andersen qui remet ça le lendemain entre 160 entre donc Bourg-en-Bresse et Champagnol, 166 500 km. Là aussi, beau spectacle qui s'impose en solitaire comme à Lyon. Et puis hier, et bien naturellement, cette étape d'Antest, Lure, la planche des belles filles, où Pogacar a renversé la tendance. 36 km, donc 200 d'ascension. Pogacar qui va devenir le premier Slovène à remporter le Tour de France. La pub, on vous donne le classement final et puis on va vous donner l'itinéraire aussi des endroits où on pourra voir donc les coureurs. La pub auparavant. Bon, alors il n'y a pas de pub, c'est pas grave, on va pas penser à la pub, on va l'occulter, c'est pas bien grave, c'est une remise en forme aujourd'hui. Alors on va simplement donc rappeler le classement définitif, Olivier. C'est vrai que l'équipe Jumbo Visma, ils peuvent avoir beaucoup de regrets.
Mais c'est moins qu'on puisse dire. Le contre-la-montre, c'est individuel. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'équipe Roglic était fort, mais son équipe a caché un peu. D'habitude, on dit que c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, c'est la forêt qui a caché l'arbre. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu les limites de Roglic, parce que Pogacar qui attaquait, mais à chaque fois, Roglic venait grâce à son équipe, à des Dumoulin, des Van der Aert. Il revenait, c'était vraiment son équipe qui l'a ramené. Et là, individuellement, on s'est aperçu qu'il avait ses limites. Et Pogacar, tout seul, heureusement, de toute façon, il prend le maillot que le dernier jour parce qu'il n'avait pas une équipe suffisante pour encadrer. Mais il a bien joué. Et gérer ses Movistar, c'est lorsqu'il aurait fallu prendre 30 secondes, ils ne les ont pas pris. Et c'est là qu'ils auraient dû le faire. Donc on disait l'étape quand Roglic gagne, il était au-dessus du lot, et ben il aurait dû attaquer pour prendre 30 secondes, ainsi de suite, comme faisait à l'époque Froome. Il tuait le tour un peu, je dirais, 10 jours avant l'arrivée pour se sécuriser sur un type de contre-la-montre. Et là, on a vu vraiment le fait que Pogacar était vraiment au-dessus du lot. Qui était
bon, on est prêt. Allez, juste la pape de pub, et puis on termine cette émission du 20 septembre. Bon. Bon, alors apparemment, c'est pas possible, c'est pas bien grave, on va occulter.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changé pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site Briffaut. Électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie, bijouterie, joaillerie, Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors Olivier, donc on l'a dit, hein, Tour de France historique de par la victoire d'un premier Slovène, donc de 21 ans, Pogacar qui va s'imposer devant Roglic à 59 secondes, le troisième c'est Porte, hein, il le mérite, 3 minutes 30, quatrième Landa à 5,58, cinquième Mas à 6,07, sixième Lopez à 6,47, septième Tom Dumoulin à 7,48, huitième Uran à 8,2, neuvième Yates à 9,25 et dixième Caruso à 14,03. Le premier Français c'est Guillaume Martin qui va terminer 11e à 16,58, Barguil est 14e à 31 minutes 04, Pierre Roland 18e à 1h 8 minutes 5 secondes. Ça veut dire qu'à partir du 17e, on arrive à plus d'une heure. Et le 17e, c'est Quintana.
Bah oui, c'est.
C'est un tour quand même, c'est rarement. Et le dernier, il est à plus de 6 heures quand même. Hein.
Oui, voilà.
Et ils sont 146 à finir leur tour, le tour sur 176, 30 abandons. Là, on est dans les normes.
Voilà. Mais on l'a vu, hein, à chaque fois dans l'étape de col, il ne restait plus qu'une quinzaine de coureurs. Donc les autres, après, ils étaient explosés. Donc c'est pour ça qu'à partir du 17e, 18e, qu'on soit à une heure, voilà, c'est pas insensé.
Oui, mais il y a des écarts cette année quand même. Voilà, plus, parce que le 17e qui est à plus d'une heure, il n'y a pas beaucoup de tours où c'est arrivé. Et un dernier qui est à 6 heures, en général, la moyenne, c'est 4 heures.
Pour un dernier. Il y a des écarts, ouais. Mais les 5 premiers, il n'y a pas tant d'écarts que non. Ça par rapport à l'habitude. C'est, la preuve, c'est qu'on a pu avoir un bouleversement. C'est que d'habitude, on a des écarts de 2 minutes entre le premier et le deuxième avant d'attaquer l'avant-dernière étape. Et c'est ce qui a pêché. La marge de sécurité que habitude Sky Ineos prenait, Movistar n'a pas pu la faire, ne l'a pas faite. Et donc c'est pour ça que voilà, on a un reversement au dernier moment.
Bon, Pogacar, meilleur jeune, maillot à poids, Bennett lui est maillot vert, l'Irlandais, c'est la Movistar qui remporte donc le prix par équipe. Aujourd'hui, ça va finir au sprint. Hein.
Bah, normalement, c'est traditionnel. Alors après, bon,
il y a deux fois que ça s'est fait en échappée.
Voilà, ça s'est
fait. Eddie Seigneur et puis Vinokourov.
Voilà, bon, ça devrait arriver au sprint. Après, il y a une tradition qui est malheureusement des fois qui est un peu embêtant parce qu'on a des super parcours sur l'île de France et que c'est plus le défilé avec la Coupe de Champagne arrivé jusqu'à Paris. Ça serait sympa.
Mais ils l'ont bien mérité.
Il y a eu une année où ils avaient fait Versailles-Paris. Pour la dernière étape.
En contre la
contre Fignon a perdu. Donc ça, c'était pas mal. Et
voilà, oui, bah peut-être.
Le renouvellement d'hier, beaucoup de souvenirs ont été ressortis par rapport à Fignon-Lémon. C'est vrai. C'est toujours, mais bon, c'est vrai que la dernière étape, elle devient un peu, c'est sympa, c'est le côté festif, mais du côté, les sportif, ça serait bien un jour qu'on ait une vraie étape d'arriver sur
ça
Paris.
Ça reviendra peut-être un jour. Hein. C'était depuis le duel Inno-Zotemel en 79. Hein. Après, voilà. Il y avait un pacte entre les coureurs. Liam Zotemel qui avait attaqué dans la vallée de Chevreuse et Bernard Hinault qui lui avait répondu.
Voilà, c'était deux caractères.
Alors, Mantes, ça part à 16h, Olivier. Ceux qui veulent voir le tour, eh ben, ils iront à la Côte de Beule à 16h25, Crépierre 16h35, Feucherolles 16h44, Saint-Nom-la-Bretèche 16h49, Villepreux 16h56 et après, plus près d'ici, donc Saint-Cyr-l'École 17h05 et Château de Versailles 17h15. L'entrée sur Paris, elle se fera naturellement par Meudon et puis ici, les Moulineaux, et on va franchir la porte de Versailles, de Châtillon, d'Enfer Rocheron, Port-Royal, Jardin du Luxembourg, Place Saint-Michel, Pont-Neuf, et puis ensuite, on rentrera sur le circuit à 18h03 avec 9 passages sur la ligne, une arrivée vers 19h08.
Tout à fait, une arrivée traditionnelle maintenant avant le coucher du soleil, qui là sera un peu plus proche vu le mois de septembre, donc il ne faudra pas qu'il se traîne de trop. Au 19h09, le soleil sera pas loin de se coucher, donc voilà. C'est une arrivée traditionnelle maintenant depuis 10 ans sur Paris.
En tout cas, chapeau les coureurs, parce que ils ont eu, allez, grosso modo, 2 mois de préparation pour le Tour de France. Habituellement, c'est 4 ou 5 mois. Hein.
Tout à fait, chapeau aux coureurs, chapeau, moi je dis aussi chapeau, je vais me regarder de mon côté, aux organisateurs, de pouvoir plus maintenir, et chapeau aux villes, aux élus qui ont été traversés, d'avoir complètement chamboulé leur calendrier, leur manifestation. C'est pas évident de déplacer un monument comme le Tour de France de 3 mois, et chapeau à tous ces élus qui ont réussi à continuer pour perdurer cet événement.
Merci messieurs. À très bientôt, hein, bonne fin de journée, Le Mans et puis le Tour de France. Merci à Guillaume d'avoir été aux manettes, il reprend progressivement l'entraînement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à toutes et à tous. Restez-nous fidèles, hein, et puis prenez soin de vous. Salut.
Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. L'équivalent d'une année de précipitations tombée en l'espace de quelques heures hier, l'épisode Cévenol qui a frappé le Gard a été d'une rare violence. De nombreux cours d'eau ont débordé, des centaines de pompiers étaient mobilisés et une personne au moins est toujours portée disparue. Ce matin, Météo France annonce la fin de l'alerte rouge en local. Gérald Darmanin et Barbara Pompili, les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique, se rendent sur place. 75 députés de la majorité signent une tribune à paraître ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Ils appellent à une vaccination massive contre la grippe saisonnière, un acte qu'ils qualifient de citoyen et qui devrait permettre de lutter